put a spell on you. Because you're mine. Stop the things you do.
Bonjour, vous êtes bien sur le Théâtre de la Gamelle, une émission de théâtre radiophonique en direct tous les vendredis sur Radio Canu, une émission de théâtre proposée par la compagnie Les Montures du Temps. Et avec nous dans le studio, plusieurs comédiens. Donc il y a Manon Lévesque, bonjour.
Bonjour.
David Bascon.
Bonjour.
Marie-Laure Communal.
Bonjour.
Florent Fichot.
Bonjour.
Et Sarah Seignobosque.
Bonjour.
À la technique, Ariane Attoni. Aujourd'hui, dans le cadre en fait des thématiques sur les auteurs femmes, nous avons choisi de lire des extraits d'un texte de Biljana Splijanović, une auteure serbe qui est née à Belgrade en 1970. Et qui a écrit sa première pièce de théâtre qui était intitulée La Trilogie de Belgrade en 97. Et une autre pièce qu'elle a écrite par la suite, c'était Histoire de famille, qui a remporté au Festival de Novi Sad le prix de la meilleure nouvelle pièce. Elle a écrit d'autres pièces qui ont été jouées au Festival d'Avignon en 99. Et puis celle qu'on va lire aujourd'hui s'appelle Supermarché, Supermarket, qu'elle a écrit en mai 2001 et qui a été présentée au Festival de Vienne. On a sélectionné en fait trois petits extraits de cette pièce qui se déroule en fait normalement sur 7 jours. Pour vous situer un petit peu l'histoire, ça se passe 10 ans après la chute du mur de Berlin dans une petite ville autrichienne et il y a une école. Où il y a le directeur, aujourd'hui interprété par David Bescon, qui s'appelle Léo Schwartz, le directeur. Et il donne une interview en fait à Brita. Brita qui est un journaliste local que va donc interpréter Florent. Et donc Léo Schwartz, en fait, il va tisser au fur et à mesure de sa biographie, une biographie complètement mensongère et irréelle d'une vie d'un pseudo-résistant. En fait, c'est complètement faux. Parallèlement, il y a deux profs, donc le collègue Mayer, qui est aussi interprété par Florent, et collègue Müller, interprété par Sarah, qui sont obnubilés soit par le téléphone, soit par des balles de ping-pong, des haltères, etc., de manière un peu monomaniaque. Et ils évoluent tous les personnages en fait dans une absurdité journalière qui se répète en fait au quotidien, donc parce qu'il faut savoir que ces 7 jours, c'est à chaque fois un seul et même jour. Diana, la fille du directeur, et Gamin sont deux élèves de cette école. Donc Diana, c'est Marie-Laure Communal. Et gamin, c'est Manon Lévesque. Ils se prostituent pour gagner leur argent de poche. Et les protagonistes sont tous en proie à la destruction en fait permanente de leur environnement. Donc Biljana Cvijanović en fait elle dit elle-même en fait que c'est en fait l'histoire en fait de la décomposition de la société, une sorte de désintégration sociale qui est en fait est décrite ici. Alors c'est construit comme un soap opéra. Donc on l'a vu en fait par les didascalies, y a plein de références en fait à la nouvelle aux séries, c'est ça? En fait, je sais pas, ça fait un peu référence, tu le disais tout à l'heure, David.
D'un côté américain, Les Feux de l'amour, sinon il y a aussi les novellas, non?
Ah ouais, les telenovelas.
Oui, Amour, gloire et beauté, enfin les classiques, quoi.
Et c'est vrai que donc elle manipule vachement en fait l'ironie, Biljana Cvijanović, et aussi en fait elle donne très peu de place, on va dire, à la mise en scène, puisqu'en fait dans ses didascalies elle écrit tout, enfin elle, disons qu'elle laisse pas de choix très très large en fait d'avoir sa possibilité de donner sa propre part, puisque tout est expliqué, tout est détaillé, il n'y a rien qui est laissé au hasard. On va le voir, en fait, les didascalies sont très précises. Voilà, que dire de plus? Peut-être qu'on reviendra après la lecture, en fait, pour développer si besoin. Donc moi-même, je fais les didascalies de cette pièce qui s'appelle donc « Supermarché ». Jour premier. La lumière s'allume dans le bureau du directeur de l'école, Léo Schwartz. Le bureau est rempli de livres et de maquettes d'avions de chasse américains que Léo assemble dans ses moments de loisirs. Un passe-temps inoffensif. Nous en avons tous. Monsieur Brita est assis tranquillement sur une chaise, face au bureau de Léo. Discipliné, il attend. Monsieur Brita, la quarantaine, a une excellente mine, vu la profession qu'il exerce. Il est en effet rédacteur en chef du magazine local. Il en est aussi le principal journaliste. En fait, il en écrit seul tous les articles. À travers la vitre du bureau, Brita aperçoit Diana et gamin en vêtements de sport. Près d'eux, collègue Müller, habillé en short et en t-shirt, chronomètre en main et sifflet à la bouche. Diana et gamin font des exercices d'échauffement. Collègue Müller donne des ordres.
On y va ! 1, 2, 2, 3, 3, 2, 4, 2. Redresse-toi ! 2, 6, 2, dos droit, 2, 8, 2, ça suffit. Maintenant, coup de genou. Et 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, plus bas, 3, 4, gamin, je te vois.
Avec son sifflet, collègue Müller donne le rythme. Monsieur Brita observe le cours d'éducation physique. Il regarde sa montre, sort un dictaphone de sa serviette et le met en position d'enregistrement.
1, 2, 1, 2, test.
Brita souffle deux fois dans le micro. Il arrête et rembobine. Il écoute.
1, 2, 1, 2, test.
On entend aussi son souffle dans le micro. Satisfait, Brita rembobine la cassette. Il la met en position d'enregistrement, tous, et dit avec importance.
Il est en retard.
Brita arrête l'enregistrement. Il se lève et regarde autour de lui. Il prend un livre, il l'ouvre distraitement et le ferme. Pendant tout ce temps, devant la fenêtre, Diana et gamin font des exercices. Collègue Müller donne des ordres.
On y va, les poignets, tourne, tourne, tourne. Ne fais pas l'imbécile.
Monsieur Brita prend la maquette d'un avion, il joue avec elle. Il survole la table, les étagères, les papiers, presque silencieusement. Il tire et lâche des bombes. Puis il la remet à sa place. Il s'assoit, il attend. Puis il met en marche l'enregistrement.
Il joue avec des maquettes d'avion, l'idiot.
Il arrête l'enregistrement.
Bon, ça suffit. Diana Schwartz, tu entends ce que je te dis? En rang, 30 mètres, sprint.
Diana et gamin se mettent en rang. De nouveau, Monsieur Brita regarde sa montre. Il soupire.
Attention, prêt, départ.
En tapant des pieds de toute leur force, les enfants courent. Monsieur Brita se regarde dans la vitre de l'armoire où sont rangés les trophées de l'école. Il ajuste ses revers et sa cravate. Il observe son reflet. Il passe sa langue sur ses dents et s'assoit de nouveau. Puis avec l'index, il fait tomber quelques papiers d'une pile sur le bureau. La pile bascule et tombe par terre.
Merde.
Brita répare les dégâts et remet les papiers sur le bureau. Dehors, les enfants courent à n'en plus pouvoir. Collègue Müller donne sans arrêt des ordres.
Pas bien, on recommence.
Brita aperçoit un cahier de quelques centaines de pages à reliure rigide. Sur la couverture, écrit en grand caractère au feutre noir, Leonid Snovievich. En dessous, ajouté au feutre noir, dossier. Brita observe le cahier, il l'ouvre et le feuillette. Puis il le ferme et le remet sur le bureau. Au moment où il s'assoit, le téléphone se met à sonner. Dehors, collègue Mayer s'approche de collègue Müller. Dès qu'elle l'aperçoit, elle se met à donner des ordres.
Continue à courir, on y va, 400 mètres, 10 tours et sors aller.
Les enfants courent lentement en rond. Collègue Müller et collègue Mayer discutent à voix basse. Dans le bureau de Léo, le téléphone sonne. Brita ne décroche pas. Pour une quelconque raison, collègue Müller est désespéré et collègue Mayer lui explique quelque chose. Les enfants continuent à courir. Le téléphone sonne, sonne, sonne et s'arrête. Collègue Mayer s'éloigne. Collègue Müller regarde le chronomètre. Les enfants commencent à ralentir. Collègue Mayer entre dans le bureau de Léo. Il est surpris d'y voir Brita. Bonjour, monsieur le directeur n'est pas là ?
Il n'est pas encore arrivé.
Ah, et quand arrive-t-il ?
Je ne sais pas, je l'attends aussi.
Ah, bon. Alors,
Colette Mayer part, puis il revient.
Excusez-moi, est-ce que madame Mayer a appelé ?
Je ne sais pas, je n'ai pas décroché.
Oui. Oui, bien entendu, mais le téléphone a sonné ?
Oui, il a sonné.
Et qui a-t-on demandé ? Ah, oui. Oui, vous ne savez pas, bien entendu.
Brita hausse les épaules, il l'aiderait s'il le pouvait.
Et a-t-il sonné longtemps ?
À peu près 14 fois.
Tant que ça ?
Je ne sais pas, peut-être moins, je n'ai pas compté.
Et la personne insistait ?
Je dirais que oui, je veux dire, il me semble, mais je ne sais pas.
Je comprends, vous n'avez pas compté. Bon, alors, au revoir.
De nouveau, collègue Mayer part, le téléphone sonne. Collègue Mayer est debout, il écoute. Brita écoute aussi. Ils se regardent, personne ne décroche. Comme si ne rien se passait, Colette Mayer essaye de couvrir le bruit de la sonnerie.
Et excusez-moi, vous êtes ?
Brita
se lève et lui tend la main.
Brita, le magazine Images et Paroles, vous êtes nouveau ?
Colette Mayer, professeur de bureautique. Nous sommes ici depuis le mois d'août.
Il se serre la main.
Vous êtes ici avec votre famille ?
Comment le savez-vous ?
Vous venez de le dire.
Le téléphone cesse de sonner.
Images et Paroles, je suis votre travail.
Finalement, Colette Mayer sort, Brita réussit à ajouter.
Merci.
Dehors, collègue Müller siffle, elle crie
« Suffit ! Au vestiaire !»
Les enfants et collègue Mayer partent. Léo entre dans le bureau, Brita se lève.
Ah, vous êtes déjà là. Excusez-moi, problème avec la police.
J'espère qu'il ne s'agit pas d'un vol.
Guindé, Brita sourit.
Que voulez-vous dire ?
C'est une blague.
Je ne comprends pas.
Brita cesse aussitôt de rire.
Excusez-moi.
Il se serre la main. Léo lui montre la chaise et s'assoit derrière son bureau.
Il paraît qu'ici, on ne vole que les honnêtes gens. Ils m'ont fait payer une amende pour passage au feu rouge.
Comme piéton ?
Léo est étonné.
Comme piéton, bien sûr. Il n'y avait même pas de voiture. Route vide d'ici jusqu'en Finlande. Et ils m'ont fait payer une amende.
En début de semaine, la circulation peut surprendre. Les voitures roulent vite.
Alors qu'ils fassent payer les conducteurs, pas les piétons. Je vous le dis, la police ne sait plus ce qu'elle fait. 12 dollars, pour rien.
Ils vous ont fait payer l'amende en dollars ?
Bien sûr que non. C'est moi qui ai fait le calcul.
Le téléphone sonne de nouveau. Léo décroche et raccroche tout de suite. Surpris, Brita le regarde.
Alors, comment allez-vous ? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu.
Il va appeler de nouveau.
Qui ?
Je ne sais pas qui, mais il a déjà appelé.
Ne vous inquiétez pas, il ne va pas rappeler.
À cet instant, le téléphone se met à sonner. Brita hausse les épaules. Par fierté, Léo ignorerait la sonnerie si c'était possible, mais cela ne l'est pas, car les téléphones Siemens sont une sonnerie forte et dérangeante.
Excusez-moi.
Je vous en prie.
Fâché, Léo décroche.
Schwartz ! Oui ? Oui ? Non, je ne sais pas. Je sais. Mais écoutez, je n'ai pas le temps maintenant. Plus tard, peut-être. Je ne sais pas quand. Monsieur Brita, du magazine Images et Paroles, est là. Nous avons une interview, oui. Je le saluerai, oui.
Léo raccroche.
Où en étions-nous ? Ah oui, on ne s'est pas vu depuis longtemps.
Qui était-ce ?
Qui ? Une affaire privée.
Mais je pensais qu'il me...
Brita voudrait dire...
Il me saluait.
Mais il renonce aussitôt. Il s'excuse.
Excusez-moi.
Ça ne fait rien. Et justement, il y a quelques jours, je regarde le calendrier. Je vois qu'on est en novembre et Brita n'appelle pas. Et alors, je me rappelle que ces dernières années, vous n'avez pas été très présent. Vous avez cessé d'appeler.
L'intérêt de l'opinion publique s'est perdu depuis un an ou deux.
Quatre.
Que voulez-vous ? C'est ainsi, l'opinion publique oublie des choses encore bien plus importantes.
L'opinion publique oublie ce que vous oubliez. Enfin, peu importe.
Bon, maintenant nous sommes ici, alors faisons-nous cette interview.
Brita pose le dictaphone devant Léo.
Je vois que vous avez un nouveau passe-temps, les bombardiers américains. C'est vous qui les faites.
Et pourquoi cette question ? Est-ce interdit ?
Monsieur Schwartz, vous avez acheté ces maquettes dans un magasin de jouets. Comment, s'il vous plaît, ce pourrait être interdit ?
Je vous en prie, voyons, nous sommes des adultes. Nous savons très bien comment fonctionne la police.
Je ne sais pas.
Mais moi je le sais. On peut toujours vous trouver quelques fautes.
Dans ce pays, pas dans ce pays, monsieur Schwartz.
Ne soyez pas naïf, monsieur Brita.
Silence. Ils se regardent. Brita tripote le dictaphone. Il le met en position d'enregistrement.
1, 2, test.
Brita souffle dans le micro. Il rembobine tout de suite.
Avec des petits avions, l'idiot.
Vite, Brita arrête le dictaphone. Léo le regarde.
C'est un vieux truc. Restez sur le ruban. J'ai vu Diana tout à l'heure, elle a grandi.
16 ans.
Déjà, une vraie jeune fille. Elle étudie bien ?
De façon sélective, comme tous. Ici, les enfants ont des problèmes avec le système des valeurs.
Là, je suis d'accord avec vous. Vous croyez que je pourrais aussi parler avec elle plus tard, pour compléter l'article ? Quel âge avait-elle quand vous êtes arrivé ?
3.
Elle ne se rappelle même pas de son pays.
C'est ici son pays.
Est-ce que je peux vous citer ?
Brita enregistre.
À la question « Si la fille se rappelle son pays », le directeur Schwartz répond.
Brita tourne le dictaphone vers Schwartz, il le regarde, puis il répète.
C'est ici son pays.
Et le vôtre, est-ce aussi votre pays, monsieur Schwartz ?
Arrêtez cela, s'il vous plaît.
Brita hésite.
Arrêtez ça.
À contre-cœur, Brita arrête le dictaphone.
Voyez-vous, Brita, j'ai immigré dans ce pays il y a 13 ans. Pendant toutes ces années, vous avez écrit sur moi combien ? Au minimum une 20aine de fois. Chaque année pour l'anniversaire de la chute du mur. 2 fois quand ils ont fait brûler les maisons turques, 1 fois à cause de l'Algérie, puis à cause de l'ex-Yougoslavie. En un mot, toutes les fois que vous aviez besoin d'une histoire d'immigrés. Puis vous avez disparu pendant des années et maintenant vous revenez avec le même sujet. Et si cette fois, vous faisiez vraiment quelque chose de sensationnel ?
Monsieur Schwartz, ce n'est pas moi qui choisis les sujets.
Comment ça ? Qui les choisit alors ? Vous êtes rédacteur en chef ?
Les lecteurs choisissent, Schwartz. Je ne fais qu'écrire ce qu'ils demandent.
Ce que j'ai à vous raconter fera vendre le tirage, Brita.
Je n'en doute pas, Schwartz. Malgré tout, nous sommes un petit magazine local.
Avec mon histoire, vous avez même une bonne occasion régionale.
Certes, mais il est trop tard. Nous avons déjà préparé le sujet. L'anniversaire approche, les 10 ans de la chute du mur. Il faut couvrir cela. L'Europe avant et après, l'Est n'est plus l'Est, et l'Occident...
Est resté le même.
Peut-être. Pourtant, les conditions changent, le temps passe, les gens discutent et c'est le sujet de mon article.
Que voulez-vous dire ?
Je serai direct, Schwartz. 10 ans après, la question se pose. Avons-nous encore besoin d'école pour les étrangers ?
Qui pose cette question ?
Image et parole.
Ça veut dire vous, Brita ?
Ah non, pas seulement moi, Schwartz.
Et qui encore ? Vous écrivez tous les textes ?
Je ne fais qu'écouter l'opinion publique.
Donc vous ? Bon, vous.
Rien contre vous, Schwartz. Vous le savez, notre magazine ne fait que poser des questions. Ce sont les lecteurs qui tirent les conclusions. Et les questions se posent. C'est une nouvelle époque. Les frontières n'existent plus. Les différences s'effacent ou il faut les effacer. Alors commençons.
Brita lance l'enregistrement.
Monsieur Schwartz, que signifie pour vous cet anniversaire ?
Léo prend le dictaphone de la main de Brita et l'éteint.
Si je vous dis que depuis toutes ces années où l'on ne s'est pas vu, j'ai fait l'acquisition de quelque chose de très important.
Je ne sais pas, je ne suis pas sûr.
Léo fouille dans ses papiers, il jette sur la table devant Brita le cahier, son dossier. Brita lit sur la couverture « Leonid Snoyevitch, dossier ».
Snoyevitch, c'est moi. C'est mon vrai nom. Mon dossier, Brita. Le dossier du dissident politique. Quand ils ont ouvert les archives, je l'ai acheté. Ils n'ont pas eu le temps de le détruire.
Intéressant.
Brita regarde le cahier relié, il ne sait qu'en faire.
Que dites-vous ?
Sincèrement, je ne sais que dire.
C'est un choc, je comprends. Feuilletez-le, je vous en prie.
Il est un peu long, il faut du temps.
J'étais surpris moi aussi, je ne savais pas que j'étais aussi important. Vous pouvez l'emporter. C'est une copie établie par un traducteur assermenté. Regardez le tampon.
Léo marque une longue pause.
Bien entendu, l'original se trouve en lieu sûr. Au cas où il m'arriverait quelque chose, mon avocat sait ce qu'il faut faire.
Que quelque chose vous arriverait, et quoi par exemple ?
Vous savez à quoi je pense ?
Léo met son dossier dans les mains de Brita.
Ce que vous tenez là, Brita, c'est une bombe.
Panica, Brita laisse tomber le cahier, il se lève.
Pas au sens propre, mon ami, au figuré.
Oui, excusez-moi.
Emportez cela chez vous, Brita, lisez et réfléchissez.
Il y a là-dedans des choses sensationnelles. Si vous avez besoin d'un vrai texte, d'un article qui englobe toutes les horreurs d'un système, le passé et le futur d'un dissident, je vous en prie, emportez-le. Préparez-vous et on en discutera.
Hésitant, Britta reprend le cahier.
Moi, je ne sais pas, je crains de ne pas avoir le temps. Ce n'est pas notre sujet. Nous sommes intéressés par la situation dans l'école, le bien fondé des moyens, les rapports dans la communauté à la lumière de l'anniversaire.
Ceci est ma vie, Britta. Tout est noté. Il faut cesser de gratter en surface. Aller au fond des choses.
Britta se tait et feuillette le cahier. Léo se lève. Britta ne sait que faire.
Emportez-le et revenez demain. Nous allons faire l'article pour l'anniversaire.
Britta hésite, puis il se lève. Comme il n'a pas le choix, il reprend le cahier.
À demain, à la même heure. Ne vous inquiétez pas, je ne serai pas en retard. Vous avez dans les mains un matériau exceptionnel. Profitez-en, Britta.
Britta prend ses affaires et part.
À demain.
Au revoir, Schwartz.
Pendant un instant, Léo et Britta s'immobilisent. Thème musical comme dans les soap-opéras, après une scène importante. Britta et Léo se regardent. Ils retiennent respiration et mouvement. Pourtant, leurs nerfs ont leur volonté propre. Leur corps bouge sans qu'ils le veuillent. La musique s'arrête. Ils dégèlent. Britta sort et ferme la porte derrière lui. Noir. 2. La lumière s'allume dans la salle de classe. Il n'y a que deux élèves. Diana et gamin. Assis à leur pupitre, derrière le bureau du professeur, Léo.
Sortez les feuilles et écrivez.
Léo écrit au tableau, Diana proteste.
Encore ?
Diana, je t'ai entendu. Ouais. Ne fais pas d'histoire. En haut de la page, nom et prénom.
Léo dicte ce qu'il écrit.
Un jour dont on se souvient.
Léo souligne.
Vous avez 45 minutes. Et faites un effort. Hein. La meilleure rédaction sera lue publiquement, samedi, à la fête de l'école.
Encore une fête ? Et pourquoi maintenant ?
Parce que je l'ai décidé.
C'est encore un jour de fête ?
Aucune idée.
Je ne peux pas.
Ah, moi non plus ! Si nous devons encore chanter, moi je me suicide.
J'ai une obligation familiale.
Ouais, ouais, moi aussi.
Diana, ne mens pas ! Et toi, gamin, invite tes parents. Présence obligatoire.
Mais papa !
Ça suffit ! Rédigez.
Gamin demande la parole.
Qu'y a-t-il maintenant ?
Je ne comprends pas le sujet.
Un jour dont on se souvient. Qu'est-ce qui n'est pas clair ?
Je ne comprends pas sur quoi nous devons écrire. Le souvenir de qui ?
Ton souvenir, gamin. Ça ne peut pas être le mien.
Pourriez-vous préciser un peu, nous suggérer quelque chose ?
Bon, je vais le faire. Quel jour sommes-nous aujourd'hui ?
Lundi.
Merci, Diana. Mm. Et plus précisément ?
Le premier jour de la semaine.
Ça aussi, c'est exact. Mais y a-t-il un chiffre ?
Il y en a un. Lundi, 10h et 15 minutes.
Mais la date, idiot.
Ah, ça, on est le combien aujourd'hui ?
Bof, aucune idée, attends voir.
Le 4 novembre. Et qu'est-ce qu'il y a dans 5 jours ?
Samedi.
Le 9 ?
Samedi, le 9 novembre.
C'est ça ! Réfléchissez à ce que veut dire cette date. Vous pouvez écrire sur cela, par exemple. Maintenant suffit, rédigez, le temps passe.
Gamin et Diana se regardent. Ils se mettent à écrire. Léo regarde sa montre. Il s'assoit derrière son bureau. Il sort de sa serviette un cahier identique à celui que Britta a emporté. Il met ses lunettes. Il ouvre le cahier. Très bas, Gamin dit quelque chose à Diana. Diana lui répond. Léo ne lève pas les yeux.
Silence ! Ne dérangez pas les autres pendant qu'ils travaillent.
Léo lit son dossier. De temps en temps, il souligne quelque chose. Diana et Gamin écrivent. La porte s'ouvre. Collègue Mayer regarde. Léo ferme le cahier immédiatement.
Monsieur le directeur, auriez-vous un instant ?
Léo le regarde, il regarde les élèves, il ne lève pas la tête, il rédige. Léo range son cahier, il va vers la porte et très bas discute avec collègue Mayer.
Je voulais justement aller vous chercher. Nous allons faire une petite fête samedi. Une fête pour les parents et les collègues.
Encore ?
Oui, vous aussi, collègue Mayer, je vous en prie.
Excusez-moi.
Une petite fête, le programme, comme toujours. Quelques chansons.
Oh, je le savais !
Et Diana !
Les enfants liront leur composition. La chorale, puis petite collation dans le hall. On pourrait ajouter encore quelque chose. Que proposez-vous ?
Démonstration de dextérité, dictée à l'aveugle avec les 10 doigts.
Encore ? Oh, je vais vraiment me suicider !
Diana, tais-toi et rédige ! Tu seras puni.
Très bien, collègue Mayer. Un peu monotone, hein, mais continue à réfléchir quand même. Nous en reparlerons après le cours.
Léo fait le geste de fermer la porte sous le nez de Mayer. Mayer ne part pas. Léo continue à manœuvrer la porte. Mayer ne bouge pas. Léo renonce.
Encore quelque chose ?
Une question.
Dites, collègue.
Est-ce que Madame Mayer a appelé ?
Non.
Non. Bien. Elle n'a pas laissé de message ?
Non.
Non. D'accord.
Collègue Mayer reste debout quelques instants comme s'il voulait dire quelque chose. Léo attend, puis il renonce.
Je vais vous coincer le pied, collègue Mayer.
Oui. Oui, je vous en prie. Excusez-moi, au revoir.
Léo ne le salue pas. Il claque la porte. Les enfants rient.
Ne riez pas ! Rédigez !
Léo s'assoit derrière son bureau. Il rouvre le cahier. À la fenêtre de la salle de classe apparaît collègue Müller. Comme toujours, elle porte un t-shirt et un short. Elle frappe à la fenêtre. Quand il l'aperçoit, Léo prend peur. Il ouvre la fenêtre.
Collègue Müller, mais que faites-vous ici ?
Excusez-moi, j'aurais une question.
Voyez ça avec votre collègue, Mayer. J'ai cours maintenant.
Je voulais seulement dire que les balles ont disparu.
Mais quelles balles ? Qu'est-ce que j'ai à voir avec ça ?
Ici, quelqu'un vole systématiquement. Cette fois, ce sont des balles de ping-pong. Normalement, il y en a 12 dans le paquet et il n'y en a que 9. Je voulais seulement le signaler.
Elles sont égarées quelque part. Et qui a besoin de vos balles, voyons ?
Je ne sais pas et cela m'étonne. La valeur matérielle est inexistante. 0,3 marques. Ou, si vous préférez, en dollars...
Je ne préfère pas. J'ai cours maintenant.
Excusez-moi, je voulais seulement le signaler.
Bon, vous l'avez signalé. Rédigez un rapport.
Je voudrais, si vous le permettez, mener l'enquête moi-même.
Et pourquoi, collègue Müller ? Les dommages sont négligeables.
Mais justement à cause de cela, monsieur le directeur. C'est une question de principe. Le mois dernier, un alter a disparu. Maintenant, des balles. Cela commence à devenir un système.
Vous exagérez, collègue Müller.
Excusez-moi, c'était une initiative.
Faites ce que vous voulez, nous en reparlerons.
Je m'en vais. Merci.
Et écoutez.
Oui.
Samedi, nous avons une fête.
Encore ?
Les enfants commencent à rire. Léo ajoute froidement.
Préparez la chorale.
Léo claque la fenêtre. Il reprend son dossier. Furieux, il ouvre sa serviette et veut fourrer dedans le cahier. Mais quelque chose le gêne. Il retire énergiquement le cahier. Une balle de ping-pong, puis une autre, puis une troisième tombe de la serviette. Elles rebondissent aux quatre coins de la pièce. Léo lève les yeux. Diana et gamin le regardent. Furieux, il ordonne.
Rendez vos copies.
Les enfants derrière leur pupitre. Léo, derrière son bureau, se fige pendant un instant. La musique de nouveau, la tension nerveuse aussi. La musique s'arrête. Léo saisit les copies, se dirige vers la porte et se fond dans le noir. 3. La lumière monte dans l'escalier. Collègue Müller et collègue Mayer sont debout. Il s'explique presque sans voix. Elle part. Il la retient par la main. Toujours furieux, la serviette sous le bras, Léo passe à côté d'eux, il s'arrête. De sa poche, il sort les balles et les tend à collègue Müller.
Le temps que vous commenciez votre enquête, j'ai déjà trouvé les balles.
Où étaient-elles ?
Je vous ai dit qu'elles étaient égarées. Et s'il vous plaît, en dehors des cours, passez un vêtement.
Léo monte l'escalier, collègue Mayer se précipite derrière lui.
Excusez-moi, je voulais vous demander...
Léo ne s'arrête pas.
Personne n'a appelé, collègue Mayer.
Léo s'en va, collègue Müller et collègue Mayer regardent derrière lui.
Tu penses qu'il se doute de quelque chose ?
La même règle, figée. Musique dégelée.
Tout ça est de ma faute.
Noir. Scène 4. Léo entre dans son bureau et allume la lumière. Il pose sa serviette et les copies des élèves. Il s'assoit derrière son bureau et il soupire. Il se regarde dans la vitre de l'armoire, caresse sa barbe, repousse ses cheveux en arrière. Il pose par terre la pile de papier. Il prend un crayon et son dossier. Il s'installe comme si on allait le prendre en photo. Pendant quelques instants, il reste comme ça, puis renonce. Il prend une autre position, demi-profil, le regard au loin. Il lève son dossier de sorte que l'on en voit la couverture. Il reste comme ça jusqu'à ce que le téléphone sonne. Il décroche.
Schwartz !
Oui, madame. Oui, je comprends, madame. Je sais. Non, je ne le savais pas. Bon, je vais vérifier. Je suis pressé maintenant. Au revoir.
Léo raccroche. Il regarde par la fenêtre, il aperçoit Brita sur le terrain de sport. Léo ouvre la fenêtre et crie.
Brita !
Brita sursaute.
Que faites-vous là ?
Brita ouvre la bouche pour répondre et se fige. Léo se fige aussi. Musique. Il dégèle.
Je fais du journalisme d'investigation !
Au même moment, on entend le bruit des machines à écrire. La lumière monte dans la salle de classe et baisse dans le bureau de Léo. Noir. 5. Dans la salle de classe, Diana et gamin tapent à la machine. Frappe à l'aveugle avec 10 doigts. Collègue Mayer dicte.
Prénom. 2 points. À la ligne. Nom. 2 points. Sur la même ligne, nom de jeune fille. 2 points. À la ligne, jour, mois et année de naissance. 2 points. Tiret, lieu de naissance, entre parenthèses, pays et ville, 2 points à la ligne. Nom du père, 2 points, même ligne, nom de la mère, nom de jeune fille de la mère, 2 points à la ligne. Adresse permanente, rue et numéro, 2 points, nom de la ville et code postal, 2 points.
Gamin demande à Diana.
Quel est notre code postal ?
Bah pourquoi ?
Gamin, arrête de bavarder, ne dérange pas les autres.
J'ai seulement demandé quel est notre code postal, monsieur.
Pourquoi ?
Je ne sais pas quoi écrire.
Collègue Mayer le regarde, il retire le papier de sa machine.
Fais voir. Kemal Zahiri. Pas de nom de jeune fille ? Qu'est-ce que c'est que ça ?
C'est moi, mon vrai nom.
Qu'est-ce que j'en ai à faire ?
J'en sais rien, vous avez demandé mon nom, prénom, nom de jeune... Pourquoi tu ris, connasse ? Je vais t'en coller une, je te jure.
Gamin, ça suffit, toi aussi, Diana, arrête de rire. Allons-y doucement. Voyons Kemal.
Gamin.
Pardon ?
On m'appelle Gamin. Kemal n'est que sur le papier.
Je le sais. Écoute, gamin, ce que nous sommes en train de faire est un exercice de frappe à l'aveugle. Ce que j'ai dicté est un formulaire de certificat de nationalité. Tu aurais dû taper cela.
Mais je l'ai tapé.
Tu ne comprends pas. Il fallait taper ce que j'ai dicté sans regarder.
Je n'ai pas regardé.
Je sais que tu n'as pas regardé. Diana, aide-moi.
Frappe ce qu'on me dit, gamin. Ton nom, on s'en tape.
Diana, c'est quoi ce vocabulaire ?
Ah bon ? Pourquoi vous n'avez pas dit ça comme ça, tout de suite ?
Bah, vous voyez.
Je vois. Reprenons. Nouvelle feuille, à la ligne.
Diana et gamin glissent le papier dans la machine. Collègue Mayer dicte.
Taille, 2 points. Poids, 2 points. Couleur des cheveux, couleur des yeux, 2 points, à la ligne. Groupe sanguin, 2 points. Signe particulier.
Attendez, de nouveau, je ne sais pas. Quel est mon groupe sanguin ?
Diana pouf. Gamin jette la machine par terre. Collègue Mayer est furieux. Ainsi, il se fige. Tout de suite après, il dégèle. Collègue Mayer hurle.
Chez le directeur, tous les deux ! Et de spa !
Collègue Mayer ouvre la porte de la salle. Gamin et Diana sortent. Collègue Mayer les suit. Il claque la porte. Noir. 6. Le bureau de Léo. La lumière s'allume. En même temps, on entend frapper à la porte. Mayer entre dans le bureau.
Monsieur le directeur, nous avons un problème.
L'instant d'après, collègue Mayer s'aperçoit que Brita et Léo sont assis.
Je m'excuse, j'ai pensé que vous étiez seul.
Mais je ne le suis pas.
Je le vois maintenant.
Collègue Mayer, est-ce que cela peut attendre ?
Mais je vous en prie, Schwartz, continuez votre travail comme si je n'étais pas là.
D'accord.
Collègue Mayer crie par la porte.
Zahiri, Schwartz !
Pardon ?
Pas vous, monsieur le directeur.
Accablé, gamin et Diana entrent dans le bureau de Léo. Brita allume le dictaphone. Léo est furieux.
Collègue Mayer, je vous ai dit d'attendre.
Mais Schwartz, je vous en prie, faites comme si je n'étais pas là.
Brita aperçoit gamin et soudain il se lève.
Bonjour.
Brita éteint le dictaphone. Il ajoute rapidement.
En fait, il faut que je parte.
Maladroitement, Brita prend ses affaires et brusquement serre la main de Léo.
Vite ! Brita sort du bureau, perplexe. Zahiri, Mayer, Schwartz et Schwartz le suivent du regard. Le thème musical. Tous se figent. Brita dans un mouvement de pas inachevé, les autres dans leur étonnement. La musique s'arrête, les gens dégèlent. Brita disparaît, Mayer se met à hurler contre les enfants.
Vous voyez ce que vous avez fait ?
7. Gamin et Diana sont assis dans l'escalier. Ils allument des cigarettes.
Oh, comme il est bête !
Incroyable, un vrai crétin.
Ouais, pourtant, tu n'aurais pas dû balancer la machine. Et si elle était cassée ?
Je m'en fous. Où allons-nous maintenant ?
Bah, je sais pas ce que tu veux faire. Ah, moi, j'ai un date.
On entend le tatou de gamin. Il jette un coup d'œil sur l'écran et l'éteint.
Je ne sais pas ce que tu vas faire. Moi, j'ai un plan de baise.
Gamin part. Diana crie derrière lui.
Oh, attends, où tu vas ?
Je n'ai pas le temps. L'oncle Hans, attends.
Diane court derrière lui.
Bah, attends, je vais avec toi. Et gamin, attends. Et la chorale.
Gamin n'attend pas, il s'en va. Diana reste debout, elle se fige. La musique dure plus de 2 secondes. Diana dégèle.
Bon, allez, va te faire foutre.
Noir. 8. La lumière dans le bureau de Léo pour la dernière fois aujourd'hui. Fâché, Léo arpente la pièce de long en large. Diana est assise sur la chaise en face du bureau.
Ce que tu fais doit cesser.
Quoi, papa ?
Aujourd'hui, tu as été renvoyée du cours. Vendredi, tu n'es pas allée à l'école. Tu penses continuer comme ça encore longtemps ?
Bah, c'était la fête vendredi dernier.
Ne mens pas. Quelle fête ?
Bouddhiste.
Diana, nous sommes athées.
Non, tu es athée. Je suis bouddhiste.
Et depuis quand, ça ?
Depuis vendredi dernier.
Bouddhiste, bon, bon. Et pour combien de temps ?
2 semaines. S'engager pour une période plus longue, ce serait pas correct envers les autres religions.
Enfin, mon enfant, où vas-tu chercher toutes ces bêtises ? Écoute, Diana, il existe certaines règles ici et tu dois les respecter.
Moi, ça m'est égal. De toute façon, dans une prochaine vie, je redeviendrai un pigeon pour conchier ton monument.
Tu ne seras pas la seule.
Ah, tu m'étonnes.
Léo est furieux. De la main, il cogne contre la table, il en fait tout tomber.
J'en ai marre de ta merde. Tu as entendu?
Oh! Avant que tu ne démarres, sache que je suis fichée comme HSP.
Comme quoi?
Pute! Allez, maintenant, vas-y, je t'en prie.
Tu n'as pas honte.
Il prend la copie de Diana.
Et qu'est-ce que c'est que ça?
Diana regarde.
Ma copie.
Léo lit la copie de Diana.
Un jour dont on se souvient. Le jour dont je me souviendrai toujours est le jour de ma conception.
Exact. Et qu'est-ce qui ne va pas?
Premièrement, il manque une virgule. Deuxièmement, c'est une merde dégueulasse. Et qu'est-ce que tu sais du jour de ta conception ?
Bah, si tu l'avais lu jusqu'à la fin, tu le saurais. Sais-tu ce que je suis ?
Léo soupire.
Un oiseau.
Diana.
Vraiment ?
Ouais, la princesse Diana. Dans sa nouvelle réincarnation. Moi, j'ai calculé. J'ai été conçue le jour de ses fiançailles avec ce connard. Comme c'était la fin de sa vie et l'annonce de sa mort prochaine, son âme s'est transférée dans le corps d'un nouveau-né. Tada !
Tout ça est écrit ici ?
Dans les grandes lignes.
Dans les grandes lignes, et sans ponctuation. Diana, mon enfant, qu'est-ce que je vais faire de toi ?
Ah vraiment, papa, cela t'a jamais traversé l'esprit. Et la date et le nom, Diana, une coïncidence étrange.
S'il te plaît, rentre à la maison. Dîne sans moi.
Vraiment, papa ? Bon, allez, avoue que cela t'a jamais traversé l'esprit. Maman aurait dû le savoir quand elle m'a donné ce nom.
C'est moi qui t'ai donné ce nom, et pas elle. Si on avait écouté ta mère, tu n'existerais pas. Maintenant, rentre à la maison.
Diana devient triste. Léo est désolé.
Excuse-moi. Excuse-moi, s'il te plaît. Tu sais que j'y ai pas pensé.
Ouais, c'est pas grave. Si maman était vivante, elle l'aurait confirmé.
Léo est sincèrement désolé. Il embrasse Diana.
Ne sois pas triste. Elle reviendra peut-être dans ta réincarnation.
Elle reviendra certes sous forme de Clamdia ou de Candida. Pour foutre en l'air ma vie jusqu'au bout comme MST, je suis partie.
MST ? MST ? Qu'est-ce que c'est que ça ?
Diana s'en va. Léo crie derrière elle.
Où vas-tu chercher toutes ces merdes ?
Diana part sans répondre. Léo reste seul. Le téléphone sur le bureau sonne de nouveau. Furieux, Léo attrape l'appareil, le tire et arrache le fil du mur. Il met le téléphone dans le tiroir. Il s'assoit derrière son bureau et soupire. Il enfonce son visage dans ses mains. La lumière baisse doucement. La scène est plongée dans le noir. Puis un seul ray de lumière, comme un rayon X, éclaire la scène. L'école est déserte. La lumière disparaît. Noir.
Vámonos.
toujours quatrième. Le bureau de Léo est très bien rangé. Brita est assis. Il ne touche à rien. Dehors, Diana est gamin. Collègue Müller est absente. Les enfants se disputent en silence. Un instant plus tard, pressé, Léo entre dans le bureau. Au même moment, collègue Müller sort en courant sur le terrain de sport. Léo marche et parle étrangement vite, comme s'il essayait de déjouer le temps.
Vous êtes arrivé, excusez-moi. En début de semaine, le trafic peut surprendre.
Dehors, collègue Müller donne des ordres.
On y va ! Vocalise !
J'ai dû attendre au feu rouge.
Pour les piétons ?
Pour les piétons, bien sûr. Vous ne voulez pas que je paye une amende ?
Pour se dégourdir les cordes vocales, collègue Müller, à pleine gorge, chante des syllabes.
Maman, 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 maman. On y va !
Collègue Müller monte d'une octave. Diana s'accorde. Elle chante « Ma, 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 ma. » Le téléphone sonne à peine une fois. Très très vite, Léo le débranche et le range dans le tiroir.
Pour qu'il ne nous dérange pas. J'ai une question directe, Brita. Quand allez-vous écrire cet article ?
Je ne sais pas exactement dans les jours qui viennent.
Ça ne peut pas aller plus vite. Ne me demandez rien, c'est difficile à expliquer, mais il serait d'une importance primordiale que vous l'écriviez dès aujourd'hui. Vous me comprenez ?
Gamin, on s'échauffe les cordes, pas les muscles. Chante !
Les enfants et collègue Müller chantent ma 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 une octave plus haut.
Ma 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 ma.
Schwartz, je suis perplexe.
Ne vous inquiétez pas, faites-moi confiance.
Dehors, la chorale hurle à rendre l'âme. Léo ouvre la fenêtre et crie.
Plus bas, collègue Müller ! Et plus léger ! Avec plus d'émotion, de l'âme.
Collègue Müller approuve de la tête et accepte la suggestion. De toutes ses forces, elle souffle dans le sifflet et hurle.
Suffit ! On continue plus bas !
Léo tressaille, comme s'il s'agissait de sa propre idée. Collègue Müller ajoute avec conviction.
On y va. L'hymne. De l'âme.
À voix basse, les enfants, du fond de l'âme, commencent à chanter l'hymne. Content, Léo ferme la fenêtre. Puis, lestement, comme s'il était Archibald Leach, il se glisse entre les chaises de la table. D'un tas de papiers, il tire son dossier.
Voilà, c'est cela. Pour ne pas perdre de temps, lisez-le tout de suite. Il y a là beaucoup de matière, je le sais, mais ça se lit vite, ça coule, pour ainsi dire, ça vient de l'action.
Léo met le dossier dans les mains de Brita qui essaye de demander quelque chose. Les enfants chantent d'une manière ravissante.
Mais
tout est là-dedans. Leonid Knoïevitch, c'est moi. Un drôle de nom, n'est-ce pas ? Pourtant, comme dissident, je devais le cacher. Vous êtes surpris, je comprends, mais attendez un peu, Brita. Gardez votre souffle, comme on dit. Votre surprise sera encore plus grande.
C'est bien, on y va encore plus bas et avec encore plus de sentiments.
Les enfants chantent délicatement, irrésistiblement. Ils chuchotent presque la mélodie et les paroles de l'hymne autrichien. Collègue Mayer apparaît sur le terrain de sport. Il écoute émerveillé. Léo continue.
Et maintenant, Brita, regardez. Devant vous, voilà mon dossier. Avant l'immigration, bien sûr. Voyez-vous, vous ne le saviez peut-être pas, mais vous avez devant vous un vrai dissident. Ma vie, c'est mon combat. Et les choses qui sont écrites là-dedans en témoignent. Pour ne pas perdre de temps, je vais vous le lire. Leonid Knoïevitch, c'est moi.
Il lit.
Knoïevitch descend d'une famille bourgeoise dès le premier jour, subversive pour le système socialiste. Asseyez-vous, Brita. Pourquoi restez-vous debout ?
J'ai la tête qui tourne.
Ça passera.
Il lit.
Son père était professeur de musique, avec un penchant pour les auteurs décadents. Stravinsky, Britten, Charlie Chaplin.
Maintenant, encore une fois, pour moi.
Gamin et Diana chantent merveilleusement bien, comme les petits chanteurs de Vienne, ou plus précisément dans ce cas, les petites chanteuses. Enivrée par la mélodie magnifique de l'hymne, collègue Mayer enlace collègue Müller. Elle soupire. Les sons les caressent tous deux. Léo continue à lire.
Le petit Léonide, élevé dans l'ambiance d'une maison bourgeoise, ne s'en écarte guère. Dès lors, dès l'école primaire, il commence à s'opposer au système. Il refuse de chanter les marches et, de sa propre initiative, se met à apprendre le français.
Porté par le moment, enlacé, collègue Müller et collègue Mayer dirigent la chorale. Brita observe cette scène insolite. Seul Léo continue à lire obstinément.
Les camarades du club de handball ou lycéens, ils s'entraînent.
informe qu'il porte sur son caleçon un monogramme brodé avec du fil synthétique provenant de l'étranger.
Soudain, un coup de feu retentit. Léo sursaute, Brita se couche par terre. Consternés, les enfants regardent, tandis que, au ralenti, collègue Mayer et collègue Müller tombent l'un sur l'autre. Un moment de silence.
Qu'est-ce qui s'est passé ?
Puis Diana se met à courir en criant à plein poumon. Léo se précipite vers la porte du bureau. Il crie.
Qu'est-ce qui s'est passé ? Diana ! Qu'est-ce qui s'est passé ?
En sortant, il dit à Brita.
Lisez sans moi. Je reviens tout de suite. Hein.
Léo sort. Brita se relève lentement. Il regarde autour de lui. Il observe, inquiet. À la porte du bureau, apparaît Gamin. Quand il le voit, Brita sursaute. Il lève les mains comme si Gamin le visait. Gamin n'a pas d'arme, bien sûr.
Gamin, écoute, ne fais pas de bêtises. Gamin, c'est moi.
Brita et Gamin se figent. Musique, comme dans les scènes avec armes des films à suspense. Il dégèle. Froidement, Gamin annonce.
Elle les a descendus, Madame Meyer. D'une balle, les deux.
Le bureau de Léo, la nuit. Léo seul avec un pot de café. Il est assis, il attend. Il essaye de saisir le trou du temps. Il attend en silence. Seule une horloge bat. Léo a sommeil. Sa tête tombe. Un instant après, il sursaute, verse le café dans la tasse. Il boit. Il se renfrogne. Il attend, 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 puis s'endort. Doucement, la scène plonge dans le noir, puis un ray de lumière, comme un rayon X, éclaire le visage de Léo endormi. Et la scène plonge complètement dans le noir.
Nema ljepše cure od malene čule. Ja zapalih lulu, pa poljubi čulu. Oj, Bože moj, ja zapalih...
Jour septième. En bas de l'escalier, Gamin et Diana fument. À ce moment, passe collègue Müller. Elle porte chronomètre et sifflet.
Écrase les clopes. En cours !
Diana suit collègue Müller. Gamin se précipite derrière elle. Collègue Müller glisse. Tous se figent. Musique de suspense. Il dégèle. Collègue Müller dégringole dans l'escalier et tombe affreusement. Gamin et Diana regardent.
Elle est morte ?
Elle est pas morte. Elle bouge. Au secours ! Au secours !
Sans mouvement, collègue Müller est couché en bas de l'escalier. Gamin s'approche d'elle. Elle murmure.
Mon pépé. Mon pépé. Je vais perdre mon pépé.
Léo sort de son bureau. Derrière lui, Brita pointe sa tête. Léo s'approche de Müller.
Qu'y a-t-il ? Que s'est-il passé ?
Elle est enceinte.
Collègue Mayer se précipite du haut de l'escalier. Il les repousse tous et n'écoute personne.
Collègue Müller, ne la touchez pas, ne bougez pas. Monsieur le directeur, appelez l'ambulance.
Léo court dans son bureau. Brita et les enfants observent la scène. Mayer caresse le front de Müller.
Chérie, je n'ai pas eu le temps de te dire.
Tais-toi, mon amour, tais-toi seulement. Épargne tes forces et pense à nous. C'est décidé, mon aimé, je divorce. Je ne serai plus qu'à toi.
Oh, c'est formidable, car je suis...
Tais-toi et laisse-moi tout faire. J'ai pris ma décision aujourd'hui, je n'ai pas eu le temps de te le dire. Le médecin l'a confirmé irrévocablement. Je suis stérile depuis ma naissance. Ma fille n'est pas de moi.
Le son de l'ambulance parvient de l'extérieur.
Mais comment ?
Elle m'a trompé, la garce. Elle m'a attribué l'enfant d'un autre.
Léo sort en courant de son bureau.
Ils arrivent, hein.
Noir. Gamin et Diana sont assis sur les bancs dans la salle de classe.
Tu es vraiment enceinte ?
Ah mais non, j'ai déconné.
Diana embrasse Gamin. Il gémit légèrement. Il recule.
Ça te fait mal ?
Gamin approuve avec la tête. Diana est furieuse.
Bon, écoute, Gamin, ça doit cesser.
C'est facile pour toi, tu n'as pas de mère.
Bah en fait, j'en ai une.
Comment ça ?
Comme ça, j'en ai une. Elle est pas morte du tout, seulement. Elle nous a quittés. Elle est partie avec un autre. Papa ment.
C'est vrai ?
Ouais, c'est vrai.
Tu as de la chance.
Ouais, j'ai de la chance.
Les enfants se taisent. Gamin pense que ce serait formidable si sa mère les quittait. Diana pense que ce serait formidable si sa mère ne les avait pas quittés. De quelque côté qu'on prenne la chose, le problème, le tatou interrompt cet instant métaphysique. Gamin regarde l'écran.
Je dois partir. Monsieur Hans n'aime pas attendre.
Ouais, je dois aller à l'entrepôt aussi. Mayer est tout secoué par les événements d'aujourd'hui.
Diana, ne les détruis pas. Ne te détruis pas.
T'en fais pas pour moi. Mais je vais t'avouer, mais tu le dis à personne. Hein. Je garde ma virginité.
Puis elle
ajoute. Je n'accepte que le cul.
Intelligent.
Gamin et Diana se figent. Musique qui dure. Ils dégèlent. Ils partent. noir. Léo et Brita dans le bureau. Léo pleure.
Schwartz, calmez-vous. C'est terrible, mais quand même, les médecins disent que madame s'en remettra. Il ne s'agit que d'une forte contusion.
Léo ne cesse de pleurer.
Calmez-vous, elle est jeune, elle se rétablira vite.
À travers les larmes, Léo demande à Brita.
Qui ?
Collègue Müller, les médecins ont dit...
Mais je pleure pas pour ça, Brita.
Pas pour ça ?
Non, je pleure sur moi-même, Brita.
Ah oui ?
Oui.
Brita hésite, il ne demande rien.
Alors, je m'en vais, il vaut mieux, ce n'est évidemment pas le moment pour l'interview.
Léo se met à sangloter encore plus.
Ne partez pas, Brita, pour l'amour de Dieu.
Brita ne sait que faire.
Restez, je vais me confesser, je vais tout avouer.
Léo prend son dossier.
Voyez-vous cela ?
Leonid Knoyevitch, dossier.
C'est moi, Brita, moi.
Vous avez un dossier ?
Je n'en ai pas.
Comment ça ? Et qu'est-ce que c'est que ça ?
Ça ? Ce n'est qu'un cahier ordinaire, Brita.
Je le vois.
Vous ne comprenez pas. C'est ma vie.
Je comprends.
Ne dites pas que vous comprenez quand vous ne comprenez rien. Ce que vous voyez ici, c'est ma vie. Où je suis allé, ce que j'ai fait, ce que j'ai écrit et pensé, comment j'ai mené une activité subversive.
Ah ? Et où ?
Là-bas, chez moi.
Ah.
Toutes les paroles prononcées contre le régime, tous les tracts que j'imprimais et distribuais, les poèmes que j'écrivais et signais sous différents pseudonymes, les aphorismes qui circulaient ensuite de bouche à oreille, la révolte silencieuse et la préparation de la révolution, la raison pour laquelle j'ai dû m'enfuir, la raison pour laquelle ma femme a péri. Tout ça est un mensonge, Brita. Chaque mot, tout ce qui est écrit n'est qu'un mensonge.
Je ne comprends pas.
J'ai menti, Brita. J'ai fabriqué moi-même mon dossier. J'ai falsifié tous les documents, renseignements, rapports. J'ai même volé les aphorismes de Havel.
Je comprends. Et maintenant, vous avez peur qu'il porte plainte.
Non, Brita, c'est pas ça. Ils sont trop mauvais pour qu'il les revendique. Le problème n'est pas là.
Alors, où est le problème ?
Ma femme n'est pas du tout morte. Elle m'a quitté et est partie avec un autre. Mon père était mécanicien, ma mère vendeuse au Grand Bazar. Je n'ai jamais rien écrit, je n'ai jamais rien fait. J'ai eu peur, je comprenais pas. Je savais pas ce qu'il fallait.
Léo se tait, il continue.
J'ai émigré sans que personne ne m'ait persécuté. Je suis parti car ma femme m'a quitté. Je ne supportais plus de vivre là-bas.
De nouveau, Léo se tait.
J'ai écrit cela pendant des années, Brita. J'attendais le bon moment pour impressionner le monde. Pendant des années, je construis une vie que je n'ai jamais eue. Et je me préparais à en commencer une nouvelle. Avec ce dossier, comme billet pour l'immortalité. Voilà, maintenant, j'ai tout dit. Maintenant, j'ai tout avoué.
Léo finit par se taire. Brita le fixe du regard. Il se fige, triste. Musique. Il dégèle. Brita tout saute.
Tout cela est si loin, Schwartz. Entre-temps, l'intérêt de l'opinion publique s'est perdu. Nous sommes un petit magazine local. C'est vrai, j'en suis le rédacteur en chef, mais les lecteurs dictent tout. Tout cela est si loin et l'intérêt de notre lecteur est si loin.
Oui.
Je crains que ce ne soit pas le bon moment pour notre article. Considérant toute cette agitation, nous n'avons pas besoin d'une telle histoire.
Brita prend ses affaires et part. Triste, Léo le suit du regard.
Peut-être dans d'autres circonstances. Peut-être quand même une prochaine fois.
Brita sort, Léo reste où il est. Noir. Léo seul dans son bureau. Il est assis et il se tait. Il est désespéré et il en a l'air. Il prend son dossier, il arrache une page, allume un briquet.
En Amérique. J'aurais dû partir tout de suite en Amérique. Là-bas, c'est différent. J'aurais été comme tous les autres. Là-bas, tous viennent de quelque part.
Léo met le feu aux pages de son dossier, une à une.
My name is Black. Léo Black.
Léo brûle le cahier tout entier. Il le jette sur le bureau sur un tas de papier qui s'enflamme. Léo prend le fil du téléphone. Il noue une extrémité du fil au radiateur. Il fait un nœud et le met autour du cou.
Dommage qu'il m'ait refusé le visa.
De toute sa force, Léo tire sa tête. Le fil commence à l'étouffer et finit presque par l'étrangler. Le bureau prend feu, puis le radiateur lâche, les tuyaux crèvent, l'eau commence à gicler. Vivant, Léo hurle.
Amérique !
Dans le cri, Léo se fige. L'eau éteint la flamme, Léo dégèle, noir. donc, nous avons fini la lecture de Supermarché de Biljana Slebjanovic. Merci à tout le monde. Et dans le studio avec nous, Combor, qui nous a rejoint pour ses chroniques paysagères en compagnie de Marion et Michel.
Donc, nous allons vous proposer, comme chaque semaine hebdomadaire, une petite chronique paysagère. La mise en abîme par rapport à la gamelle, c'est d'une part, enfin, il y en a plusieurs, apparemment, d'une part, l'enfance, et d'autre part, la balle de ping-pong. Et donc, voilà, nous sommes venus tous les trois aujourd'hui vous interpréter trois enfants autour d'un texte qui s'appelle Le vase de Chypre. Le chat, quand il se tient posé bien en évidence, a toujours l'air d'un sphinx qui va nous poser la question qui tue. C'est ce qu'on va faire quand elle rentrera.
Moi, je verrais un truc du genre plus radical. En fait, on voulait lui faire une super surprise. Ouais, on s'est pris pour Pygmalion, vous voyez le genre, et on n'a pas eu le temps de fabriquer la créature de ses rêves à partir de la terre cuite. Aphrodite n'a pas voulu.
Non mais autant s'engager à lui faire faire 12 travaux pour se faire pardonner, hein.
T'es folle ou quoi? On a dit qu'on allait trouver un truc du tonnerre pour embrouiller maman, un truc pour détendre l'atmosphère, pas le sacrifice du genre humain.
Eh ben, on cache tout. Genre... Et on lui dit qu'Hadès, seigneur des enfers, avait l'ordre de ramener un vase de Chypre pour Perséphone. Elle nous a même mis en grand danger, hein, en exposant cette potiche dans le salon, à la merci du boiteux. Mais on s'en est sorti, hein, à la sueur de notre front.
Pas mal, Willy. Ou alors, on a reçu la visite de Gigès, invisible grâce à son anneau magique. Le vase s'est mis à se déplacer tout seul. On a donné des coups au hasard et Gigès, il a laissé tomber le vase. Splash ! Et voilà le résultat. Est-ce qu'on est en tort ?
Ah, et si le génie d'Aladin était apparu par le col ? Il a dit « Ah, je peux plus jamais être enfermé, hein. » Avant d'exploser la poterie.
Esculape, on a eu un besoin urgent pour soigner Socrate. Argument choc.
Les chevaliers de la table ronde ont trouvé le sang du Christ. Mais de récipient, guerre.
Il fallait mettre un terme au supplice des Danaïdes. On leur a cédé ce pot, dont le mérite est de posséder un fond.
Et elles ont donné quoi en échange?
Elles ont supprimé le calcaire dans l'eau du robinet.
Ouais, ça se vérifie ça, Mirabelle.
Ouais...
Et Midas nous a rendu visite. Il a voulu admirer le travail du potier, mais aussitôt la terre cuite s'est changée en or. Et le filou, il est parti avec.
Oui, il y a aussi un autre gars qui est venu, un viking avec une barbe rousse. Je reconnais Jerrican, qui dit il contenait le vin de l'équipage de mon drakkar. Il a sorti sa dague et il s'est précipité sur le machin en nous menaçant.
Oui, bon, il faut qu'on se dépêche. Maman ne va plus tarder et l'inspiration faiblit, là.
Toi, va ranger le ballon au garage.
Ouais, ok, ouais.
Tu as trouvé la colle forte? On commence le puzzle ou on bazarde le tout? Selon le mythe retenu, les deux hypothèses se tiennent.
On va se mettre à l'œuvre. Ce travail de titan, hein, saura l'amadouer. Elle en a vu d'autres, maman. Hein. Salut les enfants. Tiens. Oh bah tiens, vous m'avez débarrassé de cette cochonnerie. Ah, depuis le temps que je songeais à la jeter aux orties.
Maman, attends, c'est magique, quoi.
Ah ouais, non, mais elle est magique.
Il y a un autre gars qui est venu. C'était un viking avec une énorme mais avec des vikings.
Maman, tiens, voilà la colle forte, tu peux tout recoller les morceaux.
C'est Esculape.
Merci beaucoup pour cette chronique paysagère. C'était donc une émission du Théâtre de la Gamelle. Bah, merci à tout le monde et puis on vous dit à la semaine prochaine.
Hebdomadaire.
Merci.
Au revoir.
Merci. Au revoir.
Je suis pas musicienne, je pourrais pas te faire un bon jingle.